VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 18 janvier 2017, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
Yahya Jammeh décrète l'état d'urgence en Gambie, à la veille de l'investiture du président élu, Adama Barrow.
En Côte d'Ivoire, retour du calme à Yamoussoukro, la capitale politique, où deux soldats mutins ont été tués hier.
Au Nigeria, au moins 50 personnes ont été tuées lorsqu'un avion militaire a bombardé par erreur un camp de déplacés.
Le président Barack Obama a commué la peine de Chelsea Manning, condamnée à 35 ans de prison pour avoir transmis plus de 700 000 documents confidentiels à WikiLeaks.
Le président russe Vladimir Poutine a accusé l'administration Obama de tenter de saper la légitimité du président élu Donald Trump en répandant des informations erronées.
Et ne manquez pas notre journal de la CAN au Gabon ainsi que la Minute Echo. Pour l'instant, le journal.
La Gambie en état d'urgence ce mercredi, à la veille de l'investiture prévue de son président élu, Adama Barrow. Le chef d'État sortant, Yahya Jammeh, refuse toujours de céder la place après 22 ans au pouvoir. Jean-Roger Bion.
Monsieur Jammeh a proclamé mardi l'état d'urgence et dénoncé à la télévision un niveau d'ingérence étrangère exceptionnel et sans précédent dans le processus électoral, ainsi que l'atmosphère hostile injustifiée qui menace la souveraineté, la paix et la stabilité du pays. Yahya Jammeh, qui dirige le pays d'une main de fer depuis 22 ans, affirme vouloir rester en place tant que la justice n'aura pas statué sur ses recours électoraux, malgré les pressions internationales pour qu'il cède le pouvoir jeudi après l'expiration de son mandat. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a notamment prévenu à plusieurs reprises qu'elle pourrait avoir recours à la force en dernier ressort. À la demande de la CEDEAO, le Sénégal accueille depuis dimanche le président élu en attendant son investiture pour laquelle il a assuré qu'il serait en Gambie. Le Nigeria, poids lourd régional et continental, a affirmé de son côté accélérer ses préparatifs militaires aériens. Nous allons très bientôt nous déployer à Dakar, au Sénégal, a indiqué à l'AFP une source au quartier général de la défense nigériane. Elle a ajouté, ce déploiement est lié aux événements en cours en Gambie.
Le calme est revenu à Yamoussoukro, la capitale politique de Côte d'Ivoire, où deux soldats mutins ont été tués hier lors de nouvelles manifestations de colère de militaires qui se sont propagées hier sur ces villes. Le gouverneur de Yamoussoukro, Augustin Thiam, a rencontré les mutins. Abdourahmane Dia.
Au total, 6 villes du centre, de l'ouest et du nord-est ont été touchées par ces nouvelles manifestations de colère. À Yamoussoukro, ce sont les éléments de la garde républicaine, une unité d'élite qui dépend de la présidence, qui ont ouvert le feu sur les mutins. L'accord trouvé la semaine dernière entre le gouvernement et d'anciens rebelles intégrés dans l'armée semble avoir poussé d'autres soldats à chercher à se faire entendre. Nous ne comprenons pas pourquoi on paye une prime de 5 millions à des soldats et on oublie tout un groupe qui représente les plus nombreux d'ailleurs, a déclaré un des mutins de Yamoussoukro. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Bruno Conné s'est exprimé sur les réseaux sociaux, déclarant que le climat actuel de tension sociale préoccupe le gouvernement en promettant des solutions justes, supportables et durables. Cette nouvelle journée de mutinerie survient alors que les fonctionnaires ont reconduit hier leur grève commencée le 9 janvier dernier. Ils réclament une augmentation de salaire, paralysant plusieurs secteurs, dont celui de l'éducation.
La France envisage de proposer au Conseil de sécurité de l'ONU une résolution pour des sanctions contre ceux qui, au Mali, entravent la mise en œuvre de l'accord de paix conclu il y a 19 mois. C'est ce qu'a annoncé le représentant de la France, François Delattre. L'accord de paix entre le gouvernement et les rebelles a mis fin à des années de conflits dans le nord du Mali, mais sa mise en œuvre reste succincte.
Au moins 50 personnes, dont 6 humanitaires de la Croix-Rouge locale, ont été tuées lorsqu'un avion de l'armée de l'air nigériane a bombardé par erreur un camp de déplacés dans le nord-est du Nigeria. Précision de John Linden.
Les frappes aériennes ont eu lieu à Ran, dans le nord de l'état de Borno, épicentre de l'insurrection des islamistes de Boko Haram, alors que les humanitaires distribuaient de la nourriture aux déplacés forcés de fuir les violences. Aucun bilan officiel n'était disponible hier soir, mais un officier supérieur nigérian a confirmé qu'il y avait énormément de victimes. Selon l'organisation Médecins sans frontières, ces équipes sur place ont recensé au moins 52 morts et 120 blessés. Le général Lucky Rabor, qui commande les opérations militaires contre le groupe djihadiste Boko Haram, a affirmé que l'aviation avait reçu des informations faisant état de regroupement des terroristes de Boko Haram dans la région de Kalabalgué. Le président Muhammadu Buhari a quant à lui déclaré dans un communiqué qu'il avait appris avec une profonde tristesse ce bombardement qu'il qualifie de regrettable erreur opérationnelle, tout en appelant les populations au calme.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un arabe israélien a été tué aujourd'hui par les forces de police israéliennes après une tentative d'attaque à la voiture Bélier lors d'une protestation contre la démolition de maisons dans un village bédouin au sud d'Israël. Et c'est ce qu'annonce la police.
À 3 jours de son départ de la Maison-Blanche, le président Barack Obama a commué la peine de Chelsea Manning, condamnée à 35 ans de prison pour avoir transmis plus de 700 000 documents confidentiels à Wikileaks. La militaire transsexuelle, qui s'appelait auparavant Bradley Manning, sera libérée le 17 mai. Elle avait été condamnée en août 2013. Victoire a immédiatement tweeté Wikileaks, l'organisation spécialisée dans les révélations de documents secrets, tandis que le camp républicain dénonçait une décision scandaleuse.
Barack Obama tient ce mercredi sa dernière conférence de presse en tant que président des États-Unis, a annoncé hier la Maison-Blanche à 3 jours de l'entrée en fonction du républicain Donald Trump. La conférence de presse aura lieu à 14h15 heure locale, 19h15 temps universel.
Le président russe Vladimir Poutine a accusé l'administration sortante de Barack Obama de tenter de saper la légitimité du président élu Donald Trump malgré sa victoire incontestable en répandant des informations erronées. Lors d'une conférence de presse hier à Moscou, M. Poutine a appelé ses efforts de l'intox évidente. Le président russe a qualifié de pire que des prostituées ceux qui sont derrière la récente publication d'un dossier contenant des allégations non vérifiées selon lesquelles M. Trump aurait été impliqué dans des activités sexuelles dans un hôtel de Moscou en 2013.
L'accord sur le nucléaire iranien est un sujet d'inquiétude pour l'Union européenne, qui a contacté de manière informelle l'équipe de Donald Trump pour dissiper tout malentendu. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg.
Signé en juillet 2015 par Téhéran et 6 pays, dont les États-Unis, la Chine, la Russie et la France, l'accord nucléaire iranien est aujourd'hui sur la sellette. Dans un entretien à 2 quotidiens européens, Donald Trump avait dit y voir, je le cite, « un des pires accords jamais conclus, un des plus stupides », tout en refusant de dire s'il allait ou non le remettre en question. Les contacts pris par l'UE avec la future administration américaine visent à expliquer la valeur ajoutée de l'accord. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP une source diplomatique européenne qui n'a pas souhaité être identifiée. L'accord nucléaire iranien est un accord multilatéral, c'est-à-dire que si un des signataires décide de s'écarter, d'autres peuvent lui emboîter le pas. Un accord très important pour l'UE qui souhaite éviter une potentielle crise majeure dans la région. Le 16 janvier 2016, une grande partie des sanctions internationales frappant l'Iran ont été levées en échange de la limitation de son programme nucléaire, comme l'avait prévu l'accord signé 6 mois plus tôt.
Et tout de suite, le journal de la Cannes avec Nicolas Pinault sur VO Afrique.
Bonjour Nissa, bonjour à tous. Le Ghana, vice-champion d'Afrique en titre, a réussi son entrée dans la compétition. Les Black Stars n'ont pas eu la partie facile face à la valeureuse équipe ougandaise. Il aura suffi d'un pénalty généreux transformé en première mi-temps par André Ayou pour permettre aux Ghanéens de prendre la première place du groupe D à Port-Gentil. Et ce en raison du match nul 0-0 entre le Mali et l'Égypte. Les Aigles et les Pharaons ont fait jeu égal et chacune des équipes aurait pu l'emporter sur une pelouse difficile. Retrouvons sur place Timothée Donangmaï, l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon.
Le Mali et l'Égypte ont coupé la poire en deux, ce qui tend sur un score vierge. Ce ne sont pourtant pas les occasions qui ont manqué de part et d'autre. À travers un interprète, le coach des Pharaons, Hector Raoul Cooper.
Le Mali a
Le Mali a des joueurs d'un plus grand gabarit. Nous avons tenté de contrôler le jeu en vain. Nous avons mieux joué en seconde période, mais nos joueurs étaient trop fatigués.
Alain Giresse, le sélectionneur des Aigles du Mali, lui aussi a reconnu que l'adversaire était tenace.
Je pense que ça a été un match assez équilibré contre une équipe, une bonne équipe. Bien sûr que nous espérons la victoire. C'est somme toute le résultat nul. Paraît logique, on a bien fini cette rencontre. En tout cas, moi j'ai apprécié l'organisation de notre équipe dans cette rencontre et surtout que nous soyons mis au niveau de la compétition dans cette première rencontre.
En deuxième journée du groupe D, défi de taille pour les Maliens face aux Ghanéens. Tâche peut-être plus aisée pour les Égyptiens contre les Grues ougandaises. Timothée Donangmaï, Port Gentil, VOA Afrique.
A noter Idrissa que ce match est entré dans l'histoire puisque le gardien Essam Aladari, un monument de la sélection égyptienne, est devenu le plus âgé à disputer une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. El Adari, qui a soufflé ses 44 bougies dimanche, est entré en jeu à la 25e minute de jeu après la blessure du gardien titulaire Ahmed El Chenaoui. À suivre le retour du groupe A ce mercredi. Le pays organisateur, le Gabon, devra se montrer plus conquérant après avoir été accroché par la Guinée-Bissau lors du match d'ouverture. Les étalons du Faso seront les adversaires des Panthères ce mercredi à Libreville. J'ai joint hier Cyril Bayala qui joue au milieu de terrain pour le Burkina Faso. Il s'attend à une rencontre difficile.
Nous nous préparons en fonction de l'adversaire et on espère que le deuxième match sera en notre faveur pour assurer notre qualification pour le deuxième tour. Les Gabons ils sont sur les terres et ils vont tout faire pour pouvoir au moins passer le premier tour. C'est aussi notre objectif, donc ça sera un match très engagé. Donc on s'attend à un match costaud, on s'attend à quelque chose de lourd, donc on se prépare psychologiquement et physiquement pour les affronter.
Cyril Bayala, le joueur burkinabé sur VOA Afrique. Quant à la Guinée-Bissau, elle tentera de faire déjouer le Cameroun. Les Lions indomptables, diminués par l'absence de plusieurs joueurs restés en Europe, tenteront de s'éviter une nouvelle crise. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué.
Bonjour. L'entrée en matière des Lions indomptables du Cameroun dans une phase finale de la Coupe des Nations est toujours un événement. Ceci malgré la baisse de performance de la sélection consécutive à un rude bras de fer qui oppose, depuis le cuisant échec de la dernière Coupe du Monde, les cadres de l'équipe à leur direction. L'avalanche de désistements de joueurs majeurs découlant de cette crise durable a poussé l'encadrement technique à puiser dans l'énorme réservoir humain du football camerounais et préparer une équipe nouvelle, par définition peu prévisible, voire inconnue, que la majorité des observateurs a découvert samedi lors du match de la première journée contre le Burkina Faso. Les fondamentaux sont immuables. Avec ou sans individualité confirmée, le Cameroun compte toujours sur une dynamique collective exemplaire. L'équilibre des lignes, une puissance athlétique de tous les instants et une utilisation judicieuse de couloirs qui percutent. Par contre, les Camerounais semblent avoir laissé au vestiaire leur réalisme et leur force mentale habituelle, ce qui leur a coûté 2 points contre le Burkina Faso. Il importe donc de corriger le tir ce soir face à la Guinée-Bissau afin de retrouver, sans pression maximale, le pays organisateur lors de la dernière journée qualificative. À demain.
Et jeudi à Franceville, retour du Sénégal qui domine le groupe B. Un match piège attend les Lions de la Teranga face aux Zimbabwéens. Le point avec Amedinci à Franceville pour VOA Afrique.
La confiance règne au niveau de l'équipe nationale du Sénégal. Leader du groupe B, après leur victoire sur les Aigles de Carthage de la Tunisie, les Poulains d'Aliou Cissé se dirigent vers une sortie décisive face aux Warriors qui ont tenu en échec l'Algérie. Mais cela n'ébranle pas les Lions du Sénégal qui clament haut et fort qu'ils ont les moyens de battre les guerriers du Zimbabwe. Cheikh Kouyaté et ses partenaires l'ont fait savoir hier lors de la séance d'entraînement tenue à Mbogouville. Mais les Lions du Sénégal doivent sortir le grand jeu pour prendre le dessus sur les redoutables Zimbabwéens qui ont séduit les observateurs en alliant spectacle et efficacité. En tout cas, ce duel s'annonce épique entre Lions et guerriers. Amedinci, Franceville, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour ce journal de la CAN sur VOA Afrique. Et rendez-vous ce soir pour un nouveau journal de la Coupe d'Afrique des Nations, sans oublier notre page Facebook et notre site voaafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Nous commençons avec la Minute Éco d'Eli Dico.
L'agence de notation Moody's estime que la pression devrait se maintenir sur les économies d'Afrique subsaharienne. Elle a indiqué que ses perspectives pour l'année 2017 en Afrique sont négatives en raison de la crise des liquidités, de la faible croissance économique et du risque politique. Certains pays souffriront plus que d'autres de la crise des liquidités liée au pétrole et aux matières premières. Parmi eux, le Gabon, le Mozambique, la RDC et la Zambie. Dans son rapport Doing Business de 2017, la Banque mondiale a établi un classement des pays en fonction de l'environnement des affaires. Dans cette nouvelle édition, elle a analysé les économies de 190 pays et conclu que le Rwanda continuait sa progression spectaculaire. Le Rwanda apparaît en deuxième position des pays africains dans lesquels l'environnement social, économique et politique est le plus favorable aux affaires. Sur le plan mondial, le pays se positionne aujourd'hui au 56e rang, derrière l'île Maurice et devant le Maroc. L'Arabie Saoudite investit 100 millions de dollars en Tunisie, dans la ville de Kairouan. À l'issue de la conférence Tunisia 2020, Tunisie 2020, qui s'est tenue en novembre dernier, l'Arabie Saoudite avait annoncé via son fonds de développement qu'elle souhaiterait investir 500 millions de dollars dans l'économie tunisienne. On apprend désormais que 85 millions seront consacrés à l'hôpital régional de Kairouan et 15 autres millions sont consacrés à la restauration de la mosquée Okba Ibn Nefa.
Retour sur la situation en Gambie où une délégation marocaine tenté hier de convaincre Yahya Jammeh, à deux jours de la fin de son mandat, de quitter le pouvoir et de s'exiler au royaume chérifien. L'exil, est-ce la solution? Un élément de réponse avec l'historien Mustapha Sow, joint à Dakar par Abdourahmane Dia.
C'est une des solutions. Maintenant, ce qui, en tout cas, donne espoir, c'est l'implication du Maroc. Et sans doute aussi, cela s'explique aussi par les relations familiales qui existent, en tout cas, entre la famille du président Yahya Jammeh et les autorités marocaines. Le Maroc a plus de chances de réussir par rapport à ce qu'a fait jusque-là la CEDEAO.
Adama Barrow a quand même laissé entendre qu'il n'était pas nécessaire pour Yahya Jammeh de s'exiler. Vous pensez que c'est quand même une solution sage de laisser Yahya Jammeh en Gambie?
Adama Barrow devait en tout cas insister sur un tel discours depuis son élection, où il n'a pas pu véritablement, de notre point de vue, rassurer Yahya Jammeh et tous ses proches. Et malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. À beau le dire, on verrait mal comment un président qui a contesté votre élection, comment un tel président peut rester cohabité avec Adama Barrow dans le même territoire gambien. Aujourd'hui, la solution la plus sage, c'est de voir les voies et moyens possibles justement pour faire expulser Yahya Jammeh de la Gambie.
S'il s'exile, cela voudrait dire aussi qu'on mettrait une croix sur le passé?
Non, en fait, fondamentalement, je ne pense pas que l'exil est au moins d'effacer. En tout cas, tout ce que Yahya Jammeh a eu à faire, à la fois comme acte positif, comme négatif en Gambie. Il faut régler la situation actuelle pour permettre à un président élu d'exercer ses fonctions.
L'exil, c'est un bon compromis alors?
Malheureusement, nous sommes arrivés dans une situation aujourd'hui qui fait que c'est la solution qui semble la plus appropriée à l'heure actuelle. Du moment où vous voyez que la situation se complique davantage pour des pays voisins comme le Sénégal, comme la Guinée-Bissau, avec l'afflux massif de réfugiés, le Sénégal pour sa part aussi qui a des craintes pour que justement le conflit casamancé ne puisse à nouveau renaître. Ouais.
C'était le journaliste et historien Mustapha Sow, joint hier à Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h/24.
En République démocratique du Congo, la majorité présidentielle exige la part du lion dans le partage des postes du gouvernement qui sera issu de l'accord du 31 décembre. Elle demande au médiateur de la conférence des évêques catholiques de tenir compte du poids politique de chaque camp à l'Assemblée nationale. Elie Sango a joint à Kinshasa le secrétaire national du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Christophe Colomouni.
Nous avons essayé de réfléchir à terme des élections passées en 2011, puisque nous n'avons pas du néant. Nous avons des élections qui ont pu donner l'occasion de placer en ordre utile certaines formations politiques et qui leur confère un caractère de représentativité assez large. Et c'est ainsi que nous pensons que cela étant, il était important que ceux qui ont parlé soient actifs, les types du peuple de manière beaucoup plus significative, plus avoir une présence gouvernement.
En clair, combien de postes demandez-vous pour le prochain gouvernement?
Sous les esquisses de la CENICO, nous ne pouvons pas vous préciser combien de postes, mais nous avons émis ces là de tenir compte de la représentation ou du poids politique des partis en présence. Il serait important peut-être de tenir compte de ce partage-là en passant par une formule mathématique de pondération par rapport à la représentation au niveau du Parlement.
Mais les rassemblements et les fronts pour le respect de la Constitution affirme que les compteurs doivent être remis à zéro étant donné que les élections n'ont pas eu lieu.
C'est un travail à faire. Nous pensons que nous allons nous accorder avec les uns les autres. Ce n'est qu'une proposition de la part d'une partie de la négociation. Nous n'avons pas réfléchi une décision. On a demandé que les gens réfléchissent. Nous avons réfléchi.
On vous accuse aussi de bloquer la mise en place de l'accord en exigeant au rassemblement de présenter 5 noms parmi lesquels le président de la République devrait choisir, alors que l'accord accorde au rassemblement l'autorité de désigner les premiers ministres.
Monsieur le Président, en tant que garant de la nation, jouit du droit de veto qui lui permet que toutes les possibilités puissent lui être présentées par ceux qui ont le droit de présenter celui qui doit citer la primature. Le droit de veto aussi indique que quand bien même le rassemblement présenterait sur le candidat, le chef de l'État a le droit de pouvoir apprécier, puisqu'en fait, vous avez suivi un livre à Senko, que des critères ont été élaborés.
Et quelle est la position de la majorité par rapport au Premier ministre Badibanga qui tient à rester?
Cela ne dépend pas de la majorité. Nous n'allons pas obstruer sur le droit des autres à pouvoir désigner le candidat Premier ministre tel qu'il est reconnu par l'accord. Que ce soit l'accord du 8 octobre, que ce soit l'accord qui doit venir avec la CENCO, je crois que le Premier ministre sera désigné par l'opposition.
C'était Christophe Colomouni, secrétaire national du parti du président Joseph Kabila.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Au Mali et à compter de ce mercredi, les syndicats des magistrats du pays entament une grève illimitée. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
C'est au mois de juillet 2016 que les magistrats maliens, à travers leurs syndicats, ont commencé leur mouvement de grève avec 72 heures. Trois mois après, ils ont observé 7 jours ouvrables du 7 au 17 janvier 2017. Et aujourd'hui, ils sont en grève illimitée. Cheikh Mohamed Chérif Kone, président du syndicat autonome de la magistrature SAM.
Nous allons prendre toutes les dispositions pour faire voter une résolution contre l'État du Mali par rapport à son manque de respect pour ses engagements internationaux et par rapport à ces violations répétées des principes de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Nous ne pouvons pas accepter que ce gouvernement se comporte de cette façon. Voici ce gouvernement qui dit on fait comme ça, on accepte. Au moment de l'exécution, c'est d'autres arguments. Donc il faut qu'on en termine avec ça. Nous sommes entièrement décidés et nous sommes prêts à supporter toutes les conséquences.
C'est pour tirer le bilan des 7 jours de grève qu'une assemblée générale a réuni les magistrats du syndicat autonome de la magistrature et du syndicat libre de la magistrature. Dramane Diarra, secrétaire aux relations extérieures du SAM.
Et non, on n'a aucune satisfaction. Le problème, c'est que des gens continuent de nous demander est-ce que la porte de la discussion est fermée, est-ce que vous avez des contacts avec les autorités. La porte de la discussion n'est jamais fermée, sauf que les Maliens doivent savoir qu'il n'y a pratiquement pas d'issue avec ces autorités qui ont délibérément choisi de ne pas être un interlocuteur crédible pour les magistrats.
Pendant la grève de 7 jours, certaines bonnes volontés ont été à la rencontre des magistrats comme Amnesty International Mali et le jeune rappeur Master Soumi.
Les raisons sont d'ordre national. La justice fait partie des piliers de la République. Donc, comme l'on considère la justice comme la boîte à secrets pays, c'est la valise de la nation. Aujourd'hui, j'étais venu pour m'enquérir de la situation du syndicat de la magistrature par rapport à cette grève de 7 jours. Donc, voilà, savoir réellement qu'est-ce qu'il y a, où se situe le problème et quelles sont les revendications et quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés.
Les avocats qui sont frappés par ce mouvement de grève des magistrats ont décidé d'aller s'imprégner de ce mouvement. Maître Alassane Sangaré, bâtonnier de l'Ordre des avocats du Mali.
Nous avons estimé vraiment qu'il était de notre devoir de nous enquérir de ce qui s'est passé, comprendre et voir réellement quel peut être notre rôle dans le cadre de la reprise certainement du dialogue entre les magistrats et les pouvoirs publics. Quand nous avons constaté, d'après ceux qui nous ont exposé, il y a 6 points de revendication, 4 points concernant un volet financier et 2 concernant un volet institutionnel.
Pour la bonne exécution de cette grève illimitée, le syndicat autonome de la magistrature SAM et le syndicat libre de la magistrature Silima ont installé une permanence au niveau du siège de SAM, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Tchad, une mission conjointe Système des Nations Unies et Banque mondiale a séjourné le week-end dernier à Gorée, chef-lieu du département de Niapande dans le sud du pays. Il s'agit d'une mission qui peut permettre à ces institutions d'adopter un projet pilote de brassage socio-économique et de protection sociale des réfugiés centrafricains et des communautés autochtones, nous dit notre correspondant sur place, André Kodmajingar.
C'est pour la première fois que la Banque mondiale lance un tel projet qui vise à améliorer les conditions socio-économiques des réfugiés et des populations hautes sous la responsabilité du ICR. Car il est à noter que les services de base dans les différents camps des réfugiés au Tchad sont souvent meilleurs que dans les villages d'accueil. La population du département de la Niapende exprime sa vive préoccupation au sujet de l'appauvrissement des terres cultivables. Une situation qui, selon elle, est causée par l'afflux massif des réfugiés centrafricains dans la zone depuis plus d'une décennie. Les jeunes du dit département ne sont pas du reste.
Cette jeunesse est confrontée à des problèmes d'ordre éducatif et de communication. La jeunesse a besoin de la création des centres professionnels, la création aussi de l'emploi des jeunes pour promouvoir l'inclusion sociale et économique. Nous demandons aussi une création d'une station radio communautaire.
Les retournés centrafricains installés dans le cadre d'Anamadia égrènent également un chapelet de doléances.
Imaginez une population de 20 000 personnes, il n'y a même pas un centre de santé. Il n'y a même pas une ambulance pour emmener une femme qui devrait accoucher à Gorée. Ce n'est pas une obligation, mais nous vous prions vraiment de nous créer ce centre de santé. À un certain moment, nous avons été abandonnés. Quand nous étions venus, nous sommes venus sans document. Concours de HACR, nous avons notre documentation. Mais le problème le plus crucial, c'est l'éducation nationale, c'est la sécurité alimentaire et les abris.
Les réfugiés centrafricains, quant à eux, ne demandent pas mieux que les infrastructures routières et la formation professionnelle des jeunes.
Améliorer la route qui mène vers l'hôpital de Gorée. Prendre un malade jusqu'à l'hôpital de Gorée, c'est fatigant. Donner une autre chance à ceux qui ont étudié pour achever leurs études, même avoir leur licence, soit doctorat. La femme est la mère de la maison. Elle connaît toutes les difficultés de ses enfants. Il faut former aussi les femmes en informatique, les nouvelles technologies et tout autre métier que l'on fasse. Pourquoi pas les femmes?
Pour le représentant de la Banque mondiale au Tchad, Adama Koulibaly, toutes ces préoccupations trouveront réponse dans les tout prochains jours afin de redonner sourire aux réfugiés et à la population locale.
Après des discussions avec les autorités, nous pouvons envisager d'améliorer les routes d'accès pour faciliter l'accès aux zones de production. Donc ce sont des routes qui vont s'emmancher sur la route principale qui est le corridor qui en principe doit mener également jusqu'à la frontière de la Centrafrique. Mais je pense qu'il y a un pont sur la Pendée qu'il faut totalement réhabiliter. Ce pont est actuellement en désuétude et très dangereux.
André Kodmajingar de retour de la Niapende N'Djamena pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.